Ce 9e épisode vous invite à rencontrer Caroline de l'association Murapêche.
Bonne écoute.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Alors, ah, c'est beau, hein.
Ah, il faut des...
J'adore les...
Remonter, hein.
Ah, ils doivent être à droite, là.
Ah,
c'est bon.
Ah, il y a du monde.
Oui, ben, c'est pour ça qu'on vient.
Ah, ben, allez-y, on a du vin chaud.
Enchanté.
Bonjour.
Léa.
Stacy.
C'est
Stacy.
Stacy.
Voilà.
Alors nous, on cherche Caroline.
Caroline, elle est là avec le dos vers nous. Là.
Ok. Bon. On est prêt.
On y va. On se met dans un petit coin.
Oui.
Génial.
Oui.
J'ai
laissé
caler.
Ouais, on se met. Ouais, non, on peut se mettre là.
On peut se mettre dans un petit auvent.
Super, petit auvent, allez, le petit auvent.
Donc, je m'appelle Caroline Paul. Je suis plasticienne, mais formée en anthropologie au départ. J'ai travaillé longtemps dans des musées. Musée d'anthropologie autour des diversités culturelles, c'était ma première formation. Et en 2017, je suis arrivée à Montreuil par hasard. Je pensais plutôt repartir dans le sud, là d'où je venais précédemment. Et j'ai connu les Murapêche grâce à des amis. Il y avait un petit événement qui se préparait qui s'appelait la Guinguette Pirate. Et j'ai fait une installation pour cet événement. Qui s'appelait Dérive dans un sous-bois, qui était une installation sonore. Et je suis tombée dans le chaudron à ce moment-là. Et en fait, j'en suis plus jamais ressortie. Et j'ai lié des liens d'amitié avec, en particulier, Joseph, qui m'a beaucoup accueillie. J'ai commencé à travailler comme animatrice dans une première association. Pendant une petite année, beaucoup pour l'accueil des enfants.
Quelle assos ?
Les arts dans les murs, où ça s'est très mal passé. Cela étant, j'étais extrêmement attachée à ce projet d'accueil des enfants, d'aide aux devoirs, aide aux devoirs au jardin. Ça a été une expérience très importante pour moi. Je me suis dit, bon voilà, c'était une expérience, il fallait tourner la page. Et puis finalement, je me suis faite repêcher par l'association Murapêche pour un chantier de restauration et aussi pour l'accueil. Donc j'ai fait le premier chantier, enfin mon premier chantier de restauration, c'était à l'été 2020. La portion de mur où on était au fond.
Ouais.
À la fois, moi j'avais été bénévole pendant ce temps-là à la régie de quartier des Grands Pêchers.
Uh-huh.
On avait organisé la fête de quartier Lueur d'hiver. Et donc ça a été l'occasion de faire le pont.
Uh-huh.
Donc on a organisé le chantier avec pas mal de gens de la régie. Aussi avec des mineurs non accompagnés. Accompagnés avec l'association Entend, voilà, avec qui j'étais en lien par ailleurs. Et donc ça a été l'occasion dans ma formation j'ai fait pas mal d'histoires de l'art. Là c'était l'occasion de faire un chantier de restauration, mais de faire ce que j'aime bien, c'est-à-dire accueillir des gens d'horizons très divers. Et on a fait ce qu'on fait depuis, c'est chantier de restauration dans les deux sens du terme.
Ah,
on
oui.
restaure les murs et on se restaure, puisqu'on fait pousser des fruitiers sur les murs, donc on maçonne pour se nourrir, mais pour maçonner faut être nourri. Donc, et cuisiner c'est une très, très bonne manière de faire le lien entre des gens qui parlent pas forcément la même langue. Donc il y avait un projet d'accueil d'enfants. Beaucoup d'accompagnement à la scolarité pour les enfants du Bel Air. Donc pour moi, ça a été un premier contact avec l'Espace 40 et la régie de quartier, avec qui ensuite j'ai continué à garder des liens. Donc quand j'ai commencé à travailler à l'association Murapêche à l'été 2020, c'était des contacts qui avaient déjà été pris, sur lesquels je pouvais m'appuyer. Et je m'appuyais aussi sur ce qui a été fait à l'association Murapêche depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait un chantier d'insertion avant, qui a été monté par Pascal Mage. Donc avec c'est une idée donc qui me précède et à laquelle j'adhère totalement. C'est-à-dire qu'on peut faire à la fois le travail patrimonial, mais avec des outils d'insertion et de mise en lien. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très belle idée. Donc en ça, voilà, j'ai repris l'idée. Il y a aussi l'association Les Pierres de Montreuil qui était soutenue par l'association Murapêche, mais avec donc une nouvelle équipe de maçons qui a vraiment consolidé ce travail de restauration patrimoniale et travail d'insertion professionnelle. Je dirais que nous, notre chantier de bénévoles est plus modeste en termes de formation. C'est un travail de bénévole, donc on n'est pas sur un rythme professionnel, mais on est vraiment sur un temps d'accueil et de rencontre. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Donc sur le chantier, on a accueilli donc dans le jargon, on dit jeunes majeurs isolés. Donc c'est des majeurs sans papier qui n'ont pas eu la reconnaissance de minorité. Qui est donc vraiment des personnes dans une situation de fragilité assez grande. Donc beaucoup, donc ça via la régie de quartier des Grands Pêchers. Et donc, alors il y a voilà un petit noyau de personnes qui ont été présents sur plusieurs chantiers. Donc je vais les nommer parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup. Mahamadou Sissé, Amara Sibi, qui aujourd'hui encadre des journées de découverte des métiers. Nioli Valmé, qui a été une des rares femmes à s'impliquer sur des chantiers de maçonnerie. J'aime pas trop le mot insertion parce que c'est pas mon métier. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la rencontre. Et en fait, c'est des gens qui sont devenus des amis. Qui font partie de l'association. Donc je dirais, on ne fait pas un travail quantitatif, c'est vraiment de la rencontre interpersonnelle. Et un petit peu dans le même sens-là, sur des mineurs qu'on suivait avec des amis pendant la période du confinement. Donc là, c'était des mineurs non accompagnés, suivis par Antan et France Terre d'Asile. Quand on les a connus, ils étaient à la rue. Ils ont ensuite été hébergés en situation d'urgence par une première association qui ensuite a fait la démarche pour la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Et donc pareil, c'est trois jeunes qui sont venus sur un premier chantier, qui parlaient pas du tout français, qui venaient de vivre des choses difficiles, qui sont revenus et puis ils ont commencé leur scolarisation. Pascal a trouvé un stage en électricité à Lain. On va pas se mentir, on n'est pas une structure d'insertion. On est une association avec un demi-salarié. Donc en fait, on fait des toutes petites choses, mais je crois que moi, ce qui m'a plu ici, c'est le fait qu'on est un endroit où on peut accueillir. Alors bien sûr, on peut pas accueillir tout le monde parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais à petite échelle, il y a des temps de rencontre. Et j'aime bien aussi les temps de rencontre qu'il peut y avoir au sein voilà, des moments de chantier, mais par exemple avec les autres adhérents du jardin, qui vont être des gens d'autres univers, des gens qui travaillent. Donc voilà, essayer de croiser au maximum.
Bravo. Charlie. Delta. Echo. Foxtrot.
En fait, l'association MAP, comme elle porte le nom Murapêche, elle est un petit peu la porte d'entrée. Et nous, ensuite, on aiguille les gens en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Mais donc, on fait beaucoup de visites guidées du site. Donc, j'en fais pas mal. Pascal en fait beaucoup. L'an dernier, on a accueilli à peu près 600 élèves. Donc c'est à la fois beaucoup à l'échelle d'un demi-salarié et pas beaucoup à l'échelle de Montreuil. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très chouette et on aimerait le faire plus. Donc souvent, ça va être les écoles qui nous contactent. Mais nous, on aimerait faire passer le message dans toutes les écoles de Montreuil qu'en fait, on peut venir visiter, faire un tour, que c'est gratuit. Ça fait partie voilà, des missions, en l'occurrence les miennes et puis des personnes qui me succéderont. Et donc, on imagine des activités selon l'âge. Donc il y a l'exposition photo qu'on a mis en place, on essaye de faire des activités, mais en fait ça c'est un gros volume d'activités et ça on le fait quasiment toute l'année, même sous la pluie battante, voilà. Donc là il y a le collège Césaria Evora, il y a toutes les classes de 6e qui sont venues, ouais. On l'avait fait l'an dernier, on l'a refait cette année. Un petit peu comme une sorte de baptême. Donc, ils arrivent dans le collège, qui est vraiment le collège des murs à pêche.
Ouais.
Et donc, c'est à l'initiative d'une enseignante, parce que ça repose souvent sur la volonté d'enseignants qui se donnent un petit peu ces moyens-là. Donc, toutes les sixièmes sont venues. Donc, souvent, c'est les écoles de proximité avec lesquelles on arrive à faire des choses chaque année. Idéalement, moi j'aimerais bien que toutes les écoles de Montreuil viennent pour l'accueil des scolaires et l'organisation des chantiers. Donc on a réussi à mettre en place un contrat aidé, parcours emploi compétences. Donc on est vraiment sur une économie modeste. Mais on sait très bien qu'on fait tout ça on fait pas ça pour la lucrativité. Là, notre travail, je pense qu'il se fait aussi entendre. Donc, il y a la DRAC qui nous a donné un petit budget pour l'année 2022. Hein. C'est modeste, hein, c'est 3 000 euros. Mais nous, ça nous permet de dire on peut accueillir les classes gratuitement. Voilà, au lieu de demander 1 euro symbolique par élève, bah là, on peut faire la gratuité. La mairie, entend aussi que c'est important. Après, l'association et les historiques de l'association qui ont aussi mené le bras de fer contre la mairie, qui ont obligé la mairie à s'intéresser au site, disent que c'est bien aussi qu'on garde notre indépendance, donc ne pas être trop dépendant non plus de financement. Moi, je crois que j'aurais besoin que toutes les écoles... Enfin, est-ce que c'est un besoin ? J'aimerais que toutes les écoles se disent qu'elles peuvent venir et qu'on peut les accueillir. Et que c'est simple. Il faut juste nous écrire et on prend un créneau.
Balade en fond de mer, les pieds baignés par l'écume. Le moral trop amer et mes pensées dans la brume. J'irai noyer ma colère dans le bouillon des vagues. Pour cesser de penser que tout ici n'est qu'une blague. Mes envies prennent le large tandis que je prends de l'âge. Au milieu de ce chaos j'éviterai le carambolage. Malgré ça mon cœur, mon foie et mes poumons subissent. Car déçu par le ciel je m'enfoncerai dans les abysses. Je ne toucherai pas le fond, pire je reviendrai à flot. M'en échapperai lentement en rampant au bord de l'eau.
Alors je pense à deux choses. Une phrase de Pascal Mage, je suis désolée, je cite beaucoup.
Non, c'est très bien.
Mais bon, voilà, c'est la personne avec qui je travaille et puis qui a été moteur de beaucoup de choses, qui dit « Plus il y a de gens qui aiment les murs à pêche, et plus le site est protégé. Souvent, le fait d'accueillir les enfants, c'est une manière assez simple de faire venir les familles. Donc ça c'est quelque chose qu'on observe assez communément sur les lieux d'accueil, de loisirs, voilà. Et ensuite, par exemple les collégiens, je leur pose la question des besoins de logement, donc on regarde les photos. Là, quand on voit la grue, les années 70, donc il y a des élèves de 11 ans qui me disent « bah oui, bah, madame, on a besoin de maison ». Et en fait, je crois que c'est seulement si on vient au jardin qu'on comprend pourquoi c'est important et pourquoi c'est mieux si on peut faire les maisons en dehors de cet espace-là. Donc je pense que c'est vraiment une expérience sensible. Ça me fait penser à ce que tu disais sur la question des ouvertures. Le site, il a été redécouvert, restauré, valorisé et entretenu par des bénévoles depuis 20 ans. Donc une des raisons du fait que ce soit fermé, c'est aussi parce que y a pas mal d'intrusions et c'est beaucoup de travail en fait qui a été fait ici, et donc il y a des choses qui peuvent être dégradées, pas forcément par mauvaise intention, mais plutôt par méconnaissance. C'est un endroit qui est assez fragile, donc qui a besoin d'être protégé. Donc j'entends les bénévoles qui vont être très prudents, donc se relayent tous les dimanches pour ouvrir les parcelles, pour que ce soit ouvert au public, mais qui sont 10, et sur 50 et quelques semaines, c'est compliqué de se relayer déjà un dimanche par semaine. Et donc il faut, quand on fait visiter, on explique tout ça en fait, de pourquoi c'est fragile, quand on marche, voilà. Et dans l'autre sens, moi à titre personnel, j'aime pas non plus quand on sanctuarise les endroits, et je pense que cette mesure entre protection et sanctuarisation, elle se fait quand on se rend compte de la fragilité d'un endroit et que en même temps on se permet de venir y faire des choses, mais parce qu'on sait où sont les fragilités. Et ça, je pense que c'est vraiment en accueillant et en accompagnant. Voilà, on marche dans le jardin, on fait attention, on voit les arbres, mais en même temps on se permet de faire ci, ça ou là, et on arrive à jauger. Et ça, effectivement, je pense qu'on le fait. C'est une expérience qu'on fait ensemble. Il y a des dégradations, mais je ne pense pas que les gens font des dégradations. C'est le fait d'une poignée, c'est complètement marginal et minoritaire. Après, j'ai du mal à parler en général, parce qu'on fait un travail qui est beaucoup trop petit pour que je puisse avoir un discours global sur le quartier. Je dirais que je suis consciente, en tout cas, j'ai été témoin de situations de fragilité ou de précarité. Et je pense que c'est aussi un endroit qui fait du bien. Donc juste à côté, il y a le café social qui fait plutôt des ateliers de hortithérapie. Mmh. C'est de l'accompagnement par le jardinage. Je pense que c'est un endroit, oui, qui a besoin d'être protégé, mais c'est un endroit, au fait, aussi ressource. C'est un endroit qui fait du bien quand on peut venir passer un moment ici. Si on est mal logé, si on est dans une situation de précarité, mais avoir un endroit où on peut respirer, se poser, voir des choses, je pense que c'est un endroit plutôt qui donne de la force, plutôt ressourçant.
Force 11, la 12, en milieu de matinée, avec rafale pour voir un table, 70 à 90.
Pourquoi il n'est pas ouvert du coup alors, tout le temps ?
Parce que ça repose sur le travail de 8 bénévoles. Rita qui est là, qui arrose, coupe, entretient, et 8 bénévoles qui se relayent sur l'année pour déjà assurer une ouverture le dimanche après-midi, bénévolement. Donc si on devait mettre en équivalent temps plein, comme on fait dans le jargon, le travail qui est fait au sein de l'association, mais c'est 10 équivalents temps plein sur l'année. Et peut-être, là c'est l'entretien du jardin, et ensuite prévoir les chantiers de restauration. À un moment donné, l'ouverture, c'est aussi lié aux moyens qu'on a. Une association, c'est du public de droit privé. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une sorte de délégation de service public. Moi, je reconnais aussi mes limites juridiques. J'ai pas tous les éléments pour répondre à ça. La limite des moyens humains,
Tu l'as dit. Très bien, tu l'as très bien dit.
La limite juridique, c'est qu'en fait, à un moment donné, la ville, non seulement elle s'occupait pas de ces terrains-là, mais en plus, c'était une réserve foncière qu'elle voulait construire. Donc il y a une poignée de gens qui se sont dit « c'est pas possible, on peut pas faire ça ».
Donc on l'occupe.
Donc on s'en occupe, et on en prend soin. Et en fait, on est quasiment ouvert tout le temps, en fait, si on regarde. Le dimanche, c'est le moment où on est sûr de pouvoir venir, mais on accueille des groupes très fréquemment. Après, de toute façon, là, la taille de la parcelle, je ne crois pas qu'on puisse faire du bon travail. Par exemple, quand il y a la foule du festival, moi, j'ai l'impression qu'on se noie un peu, en fait. Je pense que c'est des endroits qui gagnent aussi à être connus par petits groupes, tranquillement, avec une sorte de tranquillité. Bon, après, moi, c'est mon caractère. J'aime bien le travail à petite échelle. Peut-être que ce serait très bien de pouvoir laisser le portillon ouvert tous les jours. Oui, ce serait très bien de pouvoir le faire. Il faudrait avoir deux salariés à temps plein qui pourraient assurer une sorte de présence au jardin en continu. Mais peut-être, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus de monde que ce qu'il y a aujourd'hui ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus s'il faut aller vers... ce serait un peu comme une sorte de tourisme de masse ou se sentir bien quelque part. C'est bien de quand on fait des choses ensemble, parce que c'est comme ça qu'on se rencontre, en faisant quelque chose ensemble. Donc c'est beaucoup ce qui se passe sur les chantiers. Moi, je dirais qu'il y a un truc tout simple, en tout cas. Voilà, on vient faire un chantier, on a cuisiné pendant 10 jours avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés, donc des étudiants, des gens qui viennent d'arriver sur le territoire. On plante un arbre, on renvoie un petit texto aux gens, venez boire un petit jus. Je crois que c'est vraiment des rencontres. Et peut-être c'est pour ça que... Enfin, je ne suis pas travailleuse sociale et je ne le serai jamais, parce qu'il faut avoir une sorte de détachement que je n'ai pas. Il faut devenir ami, en fait. Et alors, la réalité, c'est qu'on ne peut pas devenir ami avec tout le monde. On peut devenir ami avec quelques personnes, et puis les accueillir, et puis entretenir le lien. Voilà, s'il y a un petit plan pour faire ci ou ça, une forme d'entraide... Je parle vraiment en mon nom et donc peut-être là pas au nom de l'association et des actions de l'association. Un lien interpersonnel. Et donc peut-être que ça sauve pas tout le quartier du Bel Air, mais moi je suis contente s'il y a quelques personnes qui reviennent. On a les téléphones, on prend des nouvelles. Et déjà, on s'est rencontrés. Et c'est pas moi parce que je suis animatrice. C'est parce qu'il y a un lien qui s'est créé et on va se recroiser dans le bus. Et je crois que j'aime pas trop le discours de l'accompagnement parce qu'il est paternaliste. Et je crois que je déteste le discours de la charité. Parce que je crois que trop souvent on fait les choses pour se glorifier soi. On est humaniste. Et en fait, il faut être très lucide sur le fait que si on est en train d'astiquer son ego alors qu'on prétend faire de l'entraide, bah, vaut mieux rien faire du tout. Bon, je suis quelqu'un d'un peu sévère, parfois, sur certaines postures, qui, je pense, sont vraiment des postures. Je suis très sévère avec la posture de la charité, que je pense être un héritage judéo-chrétien, post-colonial, très malsain. Donc, je pense qu'il faut toujours se dire qui je suis, moi, pour prétendre aider qui et faire quoi. Déjà, essayer de faire pas de mal. Moi, la prairie, j'y vais quand on utilise la cuisine de chantier. Donc, tout ce que fait la Facto sur cuisiner, tout ce qui est anti-gâchis alimentaire. En tout cas, je pense que c'est un endroit qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Je pense un peu comme les assos, elles ont déjà apporté leurs assos, donc du coup l'entretien, parce qu'il faut aussi parler de ça, mais l'entretien de la prairie, ça repose sur pas beaucoup de monde, Joseph. Je pense que ce serait super qu'elle soit davantage investie. Là, apparemment, il y a un projet de forge sur la prairie pour l'hiver. Je pense que ça, c'est des activités qui peuvent plaire à plein de gens qui ont envie de venir. Moi, je pense qu'on peut pas obliger les gens à avoir envie de faire des choses qu'ils ont pas envie de faire. Enfin, nous, moi, je leur ai proposé de venir sur le chantier. J'ai pu, je fais ce que je peux. Et en fait, c'est petit, ce que je vous avais dit dans mon message. C'est des petites choses. Et en fait, je crois aux petites choses.
Ouais.
Et je me dis, voilà, après, c'est... Donc, c'est sûr que moi, aujourd'hui, je me lancerai plus dans un travail à l'échelle d'un quartier. Parce que c'est trop lourd à porter. Par contre, je pense que c'est en multipliant les petites initiatives portées par des individus, d'ouverture, que ça peut fonctionner. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
À la réalisation et au montage,
Vladimir Cruels et Matteo Califano de Voix Machine
et Léa Longeau de Didatica.
Émission produite par le collectif Voix Machine avec le soutien du contrat de ville d'Est Ensemble et de la CAF de Seine-Saint-Denis.
Une playlist a été constituée à partir des choix musicaux des 17 acteurs rencontrés. Vous la retrouverez dans les différents épisodes.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien voulu partager leur point de vue.
Merci pour votre confiance et à bientôt pour un prochain épisode. I'm messaging the bottle.